Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13-14 à la une aujourd'hui. Est-ce une candidature? Et si oui, peut-elle aider la gauche à s'unir ou brouiller plus encore le message? Christiane Taubira le dit aujourd'hui dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle envisage de se présenter à la présidentielle 2022. Analyse de ce message encore flou dans un instant et première réaction à gauche de l'écologiste Yannick Jadot et de la socialiste Anne Hidalgo. Vendredi 17 décembre, les vacances de Noël démarrent ce soir et ceux qui veulent prendront le train. Fin du préavis de grève sur le réseau Sud-Est. Trafic normal dès samedi. Yves Crozet, chercheur au CNRS, nous expliquera les ressorts de cette sortie de conflit alors que la SNCF est confrontée aujourd'hui à la concurrence pour la première fois sur le réseau à grande vitesse. Des trains pour les vacances, mais on n'échappera pas au virus. Les contaminations progressent pour la neuvième semaine, surtout dans le sud et chez les enfants. On fera le point sur l'épidémie qui flambe en France, mais aussi aux États-Unis. Le président lui-même lance l'alerte.
Pour les non-vaccinés, nous allons assister à un hiver de maladies graves et de décès. Pour eux, leurs familles et les hôpitaux, ils vont bientôt être submergés. Mais il y a de bonnes nouvelles. Si vous êtes vacciné et que vous avez votre dose de rappel, vous êtes protégé de la forme sévère et de la mort.
L'avertissement de Joe Biden. En France, le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures pour contrer la 5e et la 6e vague de Covid pendant les fêtes. Faudra-t-il ensuite vacciner les enfants ou pas? Le Conseil d'éthique dit oui aujourd'hui, mais sans pour autant mettre en place un pass sanitaire. On verra ce qu'en pense la pédiatre Christelle Gras-Le-Gouen, notre invitée à 13h30. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000. Dans ce journal encore, le nom des syndicats de l'hôtellerie-restauration aux hausses de salaire proposées par leur patron. Le film Spider-Man, tout juste sorti, qui prend le public français dans sa toile. Et du sport aussi, demi-finale du mondial de handball, les Françaises affronte le Danemark et dans le vif de l'histoire, le régime de Vichy contre le rugby à 13 ou comment le rugby à 15 a pris le dessus dans le paysage médiatique.
France Inter, le 13-14.
4 mois avant l'élection présidentielle, ce message va-t-il changer la donne? Une vidéo postée vers 11h30 ce matin sur le réseau social Facebook par Christiane Taubira, un peu moins de 4 minutes de monologue en veste beige sur fond blanc. L'ex-garde des Sceaux l'annonce, elle envisage d'être candidate à l'élection.
Je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier.
L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui dit donc constater l'impasse et donne rendez-vous aux Français. Pour mieux comprendre ce message encore un peu ambigu, nous sommes avec Yaël Gauze, chef du service politique de France Inter. Bonjour Yaël.
Bonjour Marion.
Christiane Taubira se lance, mais avec prudence. Hein.
J'envisage de, je vous donne rendez-vous mi-janvier. On a connu lancement de campagne plus limpide, c'est vrai, mais c'est justement parce qu'elle entre en terrain miné qu'elle prend toutes ses précautions. Christiane Taubira est d'abord candidate à une primaire, la primaire populaire et ses 300 000 inscrits en ligne pour laquelle les candidats ont jusqu'à la mi-janvier pour se déclarer et participer. Mi-janvier, c'est aussi le moment où Christiane Taubira aura bouclé son programme. Mi-janvier, enfin, cela laisse le temps de s'appeler, de se coordonner entre toutes ces gauches orphelines d'une candidature commune. D'ailleurs, si vous écoutez bien Christiane Taubira, c'est ce patchwork insoumis, écolo et socialiste dont elle aimerait bien faire la synthèse.
Je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces.
Alors, ce n'était pas cette déclaration-là. On l'a déjà entendu. On ne va pas répéter deux fois cette candidature. Non, non. Elle disait évidemment qu'elle voulait trouver le chemin commun entre écologie, justice sociale et égalité. Le blanc derrière elle, c'est la neutralité. C'est le drapeau blanc pour cesser les hostilités, sortir de l'impasse. Ce qui compte, c'est vous, dit-elle en introduction, comme un slogan de campagne. Christiane Taubira et sa longue carrière politique, traumatisée du 21 avril 2002. On lui reproche alors sa candidature qui a privé Lionel Jospin de voix précieuse, égérie de la gauche sociétale sous Hollande, le mariage pour tous, c'est elle, en retrait depuis, un positionnement ambigu sur la vaccination, une chanson sur le dernier album de Gaël Faye. Pour les proches de Christiane Taubira, cette presque candidature, c'est du sérieux, ce ne sera pas seulement un tour de piste.
Et comment est-elle accueillie cette déclaration? On rejoint tout de suite Antoine Gignot au quartier général de campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo à Paris. Comment accueille-t-elle donc cette demi-annonce de Christiane Taubira, Antoine?
Eh bien, pour Anne Hidalgo, c'est surtout l'occasion de relancer cette idée d'une primaire de la gauche. Je respecte, dit-elle, les ambitions et les familles politiques, mais il faut débattre dans le respect pour permettre aux Français de comprendre les propositions.
La meilleure façon de départager des candidatures, c'est effectivement de s'en remettre à un vote citoyen, une primaire organisée, large, ouverte, avec les candidates et les candidats qui viennent porter devant nos concitoyens leurs idées, leurs personnalités, leurs visions et leurs propositions très concrètes.
Sur la forme, elle propose un scrutin organisé à la fois dans les bureaux de vote et sur Internet en s'appuyant sur la base de la primaire populaire. Il faut que l'ensemble des candidats participent. Voilà ce que précise tout de même Anne Hidalgo, ou tout du moins que Yannick Jadot y participe. Ça n'a pas de sens, dit-elle, sans les écologistes.
Attention à ne pas perdre les Françaises et les Français à force d'un camp politique qui, à force de ne plus savoir où il va, et je parle d'une partie de la gauche, à force de ne plus savoir où il va, veut entraîner tout le monde dans des questions où on se parle entre nous. À 4 mois d'une élection présidentielle, on parle aux Françaises et aux Français.
Vous voyez, il répond très directement, Yannick Jadot, avec une petite pointe d'énervement. J'en ai un peu assez de ces candidatures qui potentiellement s'ajoutent les unes aux autres. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts campe donc sur ses positions et appelle à un rassemblement derrière lui. Mais il est loin de faire l'unanimité, y compris au sein de son propre parti. Sandrine Rousseau, finaliste malheureuse de la primaire écologiste, applaudit la déclaration de Christiane Taubira. Elle met, dit-elle, les pieds dans le plat de l'Union.
Moi, je suis ultra contente qu'elle vienne parce que je pense que cette femme est une femme de combat, une femme de conviction et qu'elle ne lâchera pas. Maintenant, je vous dis juste, la question aujourd'hui sur la table, vraiment qui est au milieu de la table, qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'écologie.
Et c'est envisageable que le candidat Europe Écologie Les Verts participe ?
C'est très peu probable en l'état actuel des choses. On attend aussi d'ailleurs la réponse de Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas de primaire. Et c'est là qu'Anne Hidalgo entre en scène avec une deuxième idée. En cas de refus, si les candidats ne se mettent pas d'accord, on peut imaginer une alternative avec des débats entre candidats, mais pas forcément de vote à la fin. Elle veut, Anne Hidalgo, mobiliser la gauche autour de propositions concrètes pour faire le débat devant les citoyens et les citoyennes à la télévision.
Alors, cette proposition, je la lance aujourd'hui à l'ensemble des candidates et des candidats de la gauche, c'est débattons. Débattons devant nos concitoyens, assumons ensemble de venir présenter nos propositions, de faire émerger, je l'espère, les convergences, mais aussi, bien sûr, les différences.
Et au centre de ce rassemblement de circonstances, pouvoir d'achat et salaire, la gauche qui doit se mobiliser pour les jeunes et la proposition d'un tiers payant pour les Français qui doivent rénover leur logement. Anne Hidalgo espère aussi parler d'hôpital public et de retraite. Vous voyez, c'est très large.
Et donc c'est encore possible d'arriver à une union de la gauche ?
Absolument, on peut imaginer qu'autour de ces débats sans connotation directe avec l'élection présidentielle, sans engagement des candidats, on arrive à créer une ligne commune. C'est ce qu'espèrent ici en tout cas les cadres du Parti Socialiste.
Antoine Gignot du service politique de France Inter, relié avec les moyens techniques d'Olivia Branger au quartier général de campagne d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup sur ces premières réactions à la possible candidature de Christiane Taubira à la présidentielle 2022. Les vacances de Noël démarrent ce soir avec un peu moins de pagaille que prévu sur le rail. CGT et Sud ont retiré le préavis hier sur le TGV Sud-Est. Trop tard pour que les choses rentrent dans l'ordre aujourd'hui. Un TGV sur deux roule ce vendredi. 50 000 passagers sont concernés. Ce week-end, en revanche, retour à la quasi-normale. Tout cela tombe alors que la SNCF doit affronter sa concurrence à partir d'aujourd'hui sur le réseau grande vitesse. Premier train Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon. Pour en parler avec nous, Yves Crozet, professeur émérite à Sciences Po Lyon et chercheur au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on sait comment la direction de la SNCF et les syndicats sont finalement sortis de cette grève possible ?
Ils en sont sortis parce que la direction a accepté les revendications des syndicalistes qui avaient, comme il s'agit des professionnels, ils ont su déclencher la grève au bon moment et à un moment où la direction avait du mal à ne pas accepter leurs propositions pour éviter justement la pagaille dont vous parliez.
Et ça a coûté combien, on le sait ?
Non, mais c'est quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui est peu de choses par rapport aux milliards d'euros qui sont déversés chaque année sur le ferroviaire. Et ça, les syndicats le savent bien. Ils savent très bien qu'à la fin du compte, il y a toujours des subventions publiques pour aider le ferroviaire en France.
Et c'est vraiment terminé ou le mouvement va se poursuivre ? Parce que le syndicat Sud, notamment, évoque des préavis de grève sur le réseau régional.
Non, c'est jamais terminé, puisque la SNCF, à elle toute seule, avec 1% des salariés français, représente à peu près 30% des jours de grève chaque année en France. Donc, bien évidemment, ce n'est pas terminé. La concurrence ferroviaire, c'est d'abord à l'intérieur de la SNCF, la concurrence et la surenchère entre les syndicats. Et donc, c'est un trait de la culture française dont nous allons profiter encore pendant des années.
Et tout ça arrive effectivement le jour de l'ouverture du réseau à grande vitesse à la concurrence. Est-ce que la SNCF est menacée dans ce contexte? Est-ce qu'elle va perdre des parts de marché?
Non, pour l'instant, c'est très peu de choses. Trenitalia va faire 2 allers-retours par jour, alors que la SNCF...
Sur Paris-Lyon, hein.
Voilà, Paris-Lyon. La SNCF, actuellement, fait 23 allers-retours par jour entre Paris et Lyon. Si vous ajoutez les trains qui partent de Mâcon au nord de Lyon et de l'aéroport de Saint-Exupéry, on est à 30 allers-retours par jour. Donc, pour l'instant, c'est une piqûre d'épingle, l'arrivée de Trenitalia. D'autant plus que les trains italiens ne partiront pas de Lyon, mais ils vont partir de Milan. Et donc, de Milan jusqu'à Lyon, il y a peut-être un petit risque de retard. Donc, la qualité de service ne sera peut-être pas excellente. Et la fréquence non plus.
Yves Crozet,
vous ratez le train du matin. Voilà.
Yves Crozet, c'est surtout sur le réseau régional, en fait, qu'on va la sentir, la concurrence, non?
Alors, la concurrence sur le réseau régional, elle va exister. On a vu récemment l'appel d'offres gagné par Transdev sur Marseille-Nice. Mais elle ne va arriver qu'en 2025. Donc la concurrence, c'est quelque chose qui est encore relativement lointain sur le ferroviaire en France et qui va rester globalement assez faible.
Et ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour les voyageurs. Par exemple, au Royaume-Uni, on a vu que l'arrivée de la concurrence, finalement, ça avait un peu désorganisé les choses et pas fait baisser les prix, finalement.
Oui, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est tout à fait différent, puisque là, ils ont complètement éclaté l'entreprise. Si on veut comprendre l'impact de la concurrence, il faut regarder l'Italie ou il faut regarder l'Allemagne. En Italie, il y a 2 opérateurs de TGV qui ont permis effectivement d'améliorer la qualité et la fiabilité du service, avec, rappelons-le, beaucoup de subventions publiques pour éviter la faillite de l'opérateur privé. En Allemagne, l'ouverture à la concurrence se fait sur les trains régionaux, comme ça va se faire bientôt entre Marseille et Nice. Et là, les opérateurs privés, dont d'ailleurs les opérateurs français, Transdev, ont gagné à peu près 20% de parts de marché. Donc la Deutsche Bahn allemande n'a jamais été menacée par l'ouverture à la concurrence, et il en va de même pour la SNCF.
Donc, en résumé, on ne sait pas si les voyageurs vont y gagner ou pas, en un mot.
Dans un premier temps, ceux qui prendront Trenitalia vont y gagner, parce qu'il va y avoir une sorte de guerre des prix, et Trenitalia va, quitte à perdre de l'argent, Trenitalia va faire des prix d'appel extrêmement bas. Mais vous savez, ce qui compte quand vous voyagez entre Paris et Lyon un peu fréquemment, c'est la fréquence. Et donc là, avec 2 trains par jour, si vous ratez le train du matin... Il faudra attendre le train du soir.
La SNCF va garder ses positions. On a bien compris, Yves Crozet. Merci, chercheur au CNRS, spécialiste du ferroviaire. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Plus de grève des trains donc pour les vacances, mais toujours l'invité dont on ne veut pas, la Covid, 5e vague, et peut-être bientôt la 6e avec le variant Omicron. Pour autant, les congés soulagent les parents qui craignaient de voir les classes fermées pour cause de cas positifs et les enseignants épuisés, notamment les directeurs et directrices d'école, comme Karine Laurent, institutrice en maternelle à Besançon et membre du syndicat SNUIP-FSU.
Heureusement, parce que ça commence à devenir vraiment très très difficile dans les écoles, très très grosse fatigue, épuisement généralisé, et encore plus pour les collègues en mission de direction d'école. Quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se connectent à la boîte mail de l'école pour voir si des parents ont envoyé un message pour signaler un cas positif, auquel cas il faut le gérer très très vite, faire toutes les démarches administratives nécessaires en parallèle de l'accueil des élèves, de la prise en charge de sa classe, etc.
Karine Laurent au micro de France Bleu Besançon. La Covid et les taux d'incidence en pleine explosion, le gouvernement s'y attaque à nouveau cet après-midi, encore un conseil de défense. Et quelques pistes envisagées, un droit de repentir pour les titulaires de faux passes sanitaires qui voudraient finalement se faire vacciner, ou encore une possible gratuité des autotests. Il faut dire que le temps presse, le virus progresse pour la 9e semaine consécutive. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Dernier chiffre de Santé publique France aujourd'hui, le virus avance donc avec une France coupée en deux. Plus de cas et d'hospitalisations au sud qu'au nord, et des enfants particulièrement touchés.
Oui, le territoire peut être grossièrement divisé en deux selon une ligne qui va de Charleville-Mézières à Pau, à l'est et au sud. l'étude des incidences supérieures à 500 pour 100 000 habitants, quand Normandie et Bretagne, par exemple, sont moins touchées. C'est pareil pour le nombre d'hospitalisations et les décès. Parmi les régions où il y a le plus de personnes infectées, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse, d'ailleurs à Marseille, on a commencé à transférer des patients vers d'autres régions pour soulager l'hôpital de la Timone. Santé publique France n'est pas en mesure de dire si on a atteint le pic de cette cinquième vague. En tout cas, l'incidence actuelle est supérieure aux trois dernières vagues. Les plus jeunes sont les plus infectés, les 30-39 ans, mais surtout les 5-10 ans, record absolu dans cette classe d'âge où plus de 1000 enfants sur 100 000 sont positifs au Covid-19, très souvent asymptomatiques ou non malades, fort heureusement. Les épidémiologistes soulignent que les Français bien vaccinés sont aussi revenus aux mesures barrières et qu'ils ont l'intention de se faire tester en cas de contact à risque. À noter l'émergence d'un nouveau variant, il n'est pas encore classé préoccupant, mais seulement sous surveillance. Il est à l'origine de plusieurs clusters dans l'Hexagone.
Des enfants de plus en plus touchés, cela explique sans doute le feu vert du Comité national d'éthique à la vaccination des 5-11 ans aujourd'hui. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Spécialiste santé de France Inter. Depuis cette semaine, seuls les enfants à risque, 400 000 environ, pouvaient recevoir l'injection anti-Covid. Là, le comité dit oui pour tous, mais sous condition.
Oui, et la première motivation, c'est en effet de casser la circulation virale chez les enfants, qui est très élevée. Mais le comité d'éthique insiste aussi beaucoup sur le bénéfice individuel de la vaccination. D'abord, des enfants vaccinés, dit-il, se sont moins de classes fermées. Et c'est très important pour la santé mentale de ces enfants d'aller à l'école. Ensuite, même si les formes sévères sont très rares, de l'ordre de 0,05%, forcément, plus un variant est contagieux, plus le risque de PIMS, notamment syndrome inflammatoire chez les enfants, est augmenté. Le pédiatre Christophe Delacour a été auditionné en tant qu'expert par le comité.
Des événements rares, par exemple comme le PIMS, qu'on estime survenant une fois sur 2000 à une fois sur 4000 infections. Quand ça circule beaucoup, forcément, ces événements rares deviennent moins rares.
Sur les données de sécurité de ce vaccin pédiatrique, on attend les résultats d'une étude américaine pour le 21 décembre. Le comité insiste en tout cas sur plusieurs points. Pas de vaccination obligatoire et surtout pas de passe sanitaire pour ces enfants. Ce ne serait pas éthique de les stigmatiser, dit-il, à cause du choix de leurs parents.
Un passe sanitaire pédiatrique imposerait finalement des différences entre les enfants pour lesquels ils ne seraient en rien responsables. Comme pédiatre, ça me paraît tout à fait inacceptable.
Évidemment, la grande question, c'est l'adhésion des parents. On voit qu'aux États-Unis, le taux de vaccination des enfants n'est pas très important, autour de 25%. Pour les convaincre, il va falloir parler, expliquer aux parents, mobiliser les spécialistes de l'enfance, explique le comité, pédiatre, puéricultrice, médecin généraliste, organiser aussi des espaces de vaccination adaptés qui respectent les besoins de ces enfants. Des enfants qui ont souvent, rappelons-le, peur des piqûres.
Merci Véronique Julia. Reste l'avis de la Haute Autorité de Santé. Si la vaccination des enfants a bien lieu, ça ne sera sans doute pas avant janvier prochain. La piqûre pour nos bambins, on en reparle avec notre invitée à 13h30, Christelle Gras-Le-Gouen, chef des urgences pédiatriques de Nantes. Vos questions, 01 45 24 7000. C'est l'un des pays les plus concernés par la flambée Omicron. Le Royaume-Uni confronté à un raz-de-marée de contamination. Une épine de plus dans le pied du Premier ministre, déjà mise en cause dans plusieurs scandales. Des pots de vin versés aux parlementaires à cette fête de Noël sans respect des gestes barrières l'an dernier. Cherry on the cake, cerise sur le gâteau. Boris Johnson et les conservateurs viennent de perdre un fief du parti. Défaite ce matin du député du North Shropshire, contraint justement à la démission pour corruption. Richard Place, vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Mauvaise séquence pour le chef de gouvernement britannique.
Il y a deux ans, les conservateurs s'imposaient avec 23 000 voix d'avance. Hier, ils ont perdu avec 6 000 bulletins de retard. Ils se sont écroulés à cause des agissements d'Owen Paterson, député, qui faisait du lobbying auprès de ministères et d'établissements publics pour un laboratoire privé qui le payait grassement. À cause aussi de Boris Johnson et de ses multiples affaires, rénovation ultra coûteuse de son appartement de fonction, fête pirate à Downing Street en pleine pandémie. À l'annonce de sa victoire cette nuit, Helen Morgan, la nouvelle députée Lib Dem, s'est adressée à lui.
Les gens du North Shropshire ont parlé au nom du peuple britannique. Ils ont dit fort et clair, Boris Johnson, la fête est finie. Et désormais, il peut être et il sera vaincu.
Ça bouillonne dans le propre camp de Boris Johnson. Une centaine de députés de la majorité ont voté contre son projet de passe sanitaire cette semaine. Et ce matin, Roger Gale, élu conservateur depuis bientôt 40 ans, le met en garde. Nous avons reçu deux coups. D'abord le parti qui s'oppose à lui aux communes. Et maintenant ce résultat. Un coup de plus et je pense qu'il était éjecté.
One more strike and I think he's out.
Le président du Parti conservateur assure Boris Johnson de son soutien, même s'il reconnaît un coup dur avec cette défaite. Il affirme que le Premier ministre reste un atout électoral. Londres, Richard Place, France Inter.
13h19 sur Inter. Comme chaque vendredi, c'est Arrêt sur audience, notre rendez-vous avec le procès des attentats du 13 novembre. Les envoyés spéciaux de France Inter vous racontent les événements marquants de la semaine au palais de justice de l'île de la Cité. Les coulisses aussi. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
En direct donc de l'île de la Cité, 62e jour d'audience. Un ex-patron de la DGSE est attendu à la barre. Mais cette semaine, on a entendu surtout les proches des terroristes et découvert notamment, Charlotte, le parcours de la famille Klein, un clan tout entier qui a basculé dans l'islam radical.
Oui, le clan Klein, selon l'expression d'une enquêtrice de la DGSI, c'est cette famille de confession catholique qui a basculé de manière collective immédiatement dans un islam très radical, au point que la majorité de ce clan est partie en Syrie. Jean-Michel et Fabien Klein sont les figures les plus tristement célèbres de ce clan-là, puisque ils ont été les voix des revendications des attentats du 13 novembre. Et on a entendu notamment deux femmes membres de cette famille, Anne-Diana Klein, la sœur aînée des deux frères que je viens d'évoquer, et Jennifer, sa fille aînée, mariée à l'âge de 15 ans. Elle avait 5 enfants à l'âge de 25. Elle en a aujourd'hui 30. Elle a été entendue depuis la prison française où elle est incarcérée. Et elle a passé 2 ans en Syrie où elle racontait cette vie à Raqqa avec notamment des écrans géants qui montrent la propagande de Daesh en boucle ou des exactions qui ont lieu au pied de l'immeuble dans la rue. Elle a vécu là comme elle avait vécu avant au sein de cette famille très radicalisée avec notamment des draps pour diviser les pièces en deux pour que hommes et femmes ne puissent pas se voir.
Cette semaine, Charlotte a permis aussi de lever le voile sur le café des Béguines, l'établissement des frères Abdeslam à Molenbeek en Belgique.
Oui, c'est ça, un café au cœur du quartier de Molenbeek, qui était connu comme un lieu de vente de drogue par tous les gens du quartier, jusqu'à 2 plaquettes de shit par jour, nous a dit un témoin à l'audience. Mmh. Mais aussi, et surtout, dans le cadre de ce dossier, c'est ce qui nous intéresse, c'était un lieu de visionnage de vidéos de propagande de l'État islamique. Là aussi, Brahim Abdeslam, qui est devenu l'un des kamikazes des terrasses, kamikazes du comptoir Voltaire notamment, était le premier à faire visionner ces vidéos. Il les regardait sur son PC, sur un coin du comptoir, et toute la question ici au procès est de savoir qui d'autre participait à ces visionnages-là, puisque c'est ce qu'on reproche à plusieurs des accusés qui tentent de s'en distancier en expliquant qu'ils étaient par exemple barman dans ce café et que ils n'ont jamais véritablement regardé ces vidéos-là ou en tout cas qu'ils n'ont pas approuvé ce qui se passait dans ce café.
Mais Charlotte, le procès va s'arrêter pendant ses congés de fin d'année. Les audiences reprendront en janvier. Quelles sont les prochaines étapes ?
Oui, c'est ça. Dernière journée de 2021 ici, qui s'apprête à démarrer avec un peu de retard en raison de l'absence d'un des accusés qui comparaît libre et qui était coincé dans le RER, pour tout vous dire. On reprend donc le 4 janvier, mardi 4 janvier, avec des interrogatoires des accusés sur leur séjour en Syrie, pour certains notamment. Ça sera le mois de janvier. Février, on va s'intéresser aux préparatifs, la location des planques, les derniers jours de préparatifs avant les attentats du 13 novembre. En mars, de nouveau des interrogatoires d'accusés. Et puis, viendra le temps des plaidoiries de partie civile. Avril, mai pour les plaidoiries de la défense, notamment pour un verdict qui est attendu juste avant l'été, sachant qu'il y a aussi 70 à peu près auditions de parties civiles qui n'ont pas pu avoir lieu dans la première phase et qui sont sur liste d'attente, qui doivent être calées un peu dans ce planning, probablement au printemps prochain.
Charlotte Piret pour France Inter en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Christophe Papon. Merci à tous les deux. L'ex-présentateur star PPDA visé par 2 nouvelles enquêtes pour viol. Une procédure lancée à nouveau par l'écrivaine Florence Porcel est confiée au parquet de Nanterre. Une autre par une femme journaliste qui accuse l'homme de média de l'avoir violée lors du Festival de Cannes en 1985. Inflation record au mois de novembre. Les prix ont bondi dans la zone euro de près de 5%. On est sans doute proche du pic, dit le patron de la Banque de France aujourd'hui. Et cela relance le débat sur les salaires trop bas. CGT, FO et FSU appellent à une mobilisation le 27 janvier prochain. Dans l'hôtellerie-restauration, les patrons proposent d'ores et déjà une nouvelle grille de salaire. 16% de hausse, c'est historique, dit le patronat. Pas de quoi convaincre les syndicats appelés à signer dès lundi. La CFDT, qui représente 30% des salariés, ne donnera pas son feu vert. Explication Stéphanie Dayan, secrétaire nationale CFDT Service.
Pour l'instant, la CFDT ne signera pas s'il n'y a pas d'engagement de la part des organisations patronales sur un véritable calendrier social partagé. C'est-à-dire de revoir toutes les conditions de travail et en particulier la fin des mesures dérogatoires concernant les heures supplémentaires et les coupures. À l'heure actuelle, les heures supplémentaires ne sont majorées que de 10% au-delà de 35 heures jusqu'aux 39 heures. Et ensuite, au-delà des 40 jusqu'à 48, ne sont rémunérés qu'à hauteur de 20%. Alors que pour les autres branches, on est à 25 et 50. Ça justifie tout à fait de ne pas signer puisque, comme on l'a toujours dit, la revalorisation des salaires était une première étape. Mais pour nous, il y avait une deuxième étape parce que le sujet central n'est pas tant les salaires que les conditions de travail des salariés de ce secteur. Et on voulait un véritable calendrier partagé sur ces négociations et sur les conditions de travail.
Et les syndicats ont jusqu'au 17 janvier pour signer. La CGT, première organisation, veut-elle aussi s'abstenir? Elle juge les propositions insuffisantes. Jusqu'où iront-elles? Les handballeuses françaises disputent cet après-midi la demi-finale du championnat du monde de handball. Les Bleus affrontent le Danemark à 17h30. Match à suspense contre des Danoises qui, elles aussi, affichent un parcours sans faute dans la compétition. 7 matchs, 7 victoires. Jean-Pierre Blimaud, vous êtes près de Barcelone, à Granollers, en Espagne, où va avoir lieu le match. Les Françaises sont déterminées.
Quand la récompense est immense, la fatigue se fait moins sentir, mais pour les joueuses françaises, elle est bien présente. Et cette qualification en demi-finale, après un carton plein, c'est du domaine de l'exceptionnel, car les Bleus n'ont pas été ménagés dans ce mondial, quand d'autres grandes nations du handball ont joué leur premier match contre des équipes nettement inférieures. Béatrice Edwige, la patronne de la défense.
Je trouve que cette compétition-là, le fait qu'on soit arrivé dans le dernier carré avec le sans faute, c'est incroyable parce qu'on a eu le parcours le plus dur de la compétition. Désolé, mais après les Jeux, enchaîner 4 mois après et faire ce qu'on est en train de faire, c'est incroyable.
Mais pour rejoindre la finale, il faudra battre cette équipe danoise, encore une équipe scandinave comme la Suède en quart de finale. Mais pour la demi-centre Grace Zahadi, c'est un ton au-dessus.
Ça reste un handball scandinave, un handball qui va vite, qui est propre, avec de grosses tireuses de loin, mais avec aussi des joueuses puissantes. J'ai l'impression qu'on est quand même assez proche de la Suède, mais ça reste quand même différent parce que les individualités sont très très différentes et voilà, il va pas falloir qu'on se trompe en se disant si c'est passé contre la Suède, ça passera.
Un succès contre le Danemark ferait aussi oublier un peu le traumatisme des mondiaux 2019 au Japon, car ce sont les mêmes Danoises qui avaient sorti prématurément les Bleus au premier tour il y a 2 ans. Barcelone, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Et si les Bleus l'emportent, finale du Mondial dimanche après-midi contre les Norvégiennes ou les Espagnoles. Un jour après sa sortie, lui est déjà champion du box-office. Spider-Man No Way Home, dernier né des studios Marvel, fait le meilleur démarrage en France depuis Le Roi Lion en juillet 2019. 476 494 entrées en une journée. Et le succès ne se voit pas que dans les chiffres. Il s'observe dans les salles avec un public plus qu'enthousiaste. Vous l'avez constaté, Victor Vasseur.
Des cris, des applaudissements, des spectateurs qui se lèvent le poing fermé, comme dans cette salle parisienne. Ces images inondent les réseaux sociaux. Yvan, 22 ans, ressort de la salle estomaqué.
Vraiment, je suis allé voir des matchs de foot en vrai et c'est exactement ça. C'est incroyable, on en ressort, émerveillé quoi, c'était fantastique vraiment.
Fantastique car d'anciens personnages de Spider-Man apparaissent, comme on le voit dans la bande-annonce.
You're not Peter Parker.
Sorry, what was your name again?
Dr. Otto Octavius.
Des grands méchants présents dans des films qui n'ont rien à voir avec le Spider-Man actuel.
Si jamais on n'est pas spoilé, on ne sait pas ce qui va se passer ni rien, bah on se prend tout dans la gueule et c'est fantastique quoi.
Pendant la projection, Paolo le reconnaît, il s'est liquéfié.
C'est tellement abusé qu'on a vu du pop-corn, on l'a pas mangé en fait. On était juste bouche bée, quoi. On ne pouvait pas mâcher, quoi. C'était incroyable.
Cette folie dans les salles redonne le moral aux exploitants. Alexandre Flubacker dirige un cinéma à Valence.
Dans la salle, les gens se lèvent, applaudissent, ou quand en plein milieu du film, il y a un acteur qui arrive, bam, ça applaudit. Là, on retrouve du jeune public. Alors, à chaque fois, on dit oui, mais maintenant il va sur Netflix, maintenant il est sur la plateforme, il viendra plus au cinéma parce que c'est has-been. Bah, c'est complètement faux.
Le précédent Spider-Man, sorti en 2019, avait attiré en France 3 200 000 spectateurs.
Un reportage à retrouver sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi savoir sur le site tout sur ces pulls moches qui viennent réchauffer nos épaules à l'approche de Noël. Dans un instant, la météo.
Bonjour, c'est Denis Brognard, parrain de la Fondation Arc. Le cancer reste aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Au sein de la Fondation, notre vœu le plus cher est de guérir plus de malades. Si on se mobilise, nous avons le pouvoir de faire progresser cette recherche pour permettre de guérir 2 cancers sur 3 d'ici 2025. Alors je compte sur vous. Donnez aux chercheurs les moyens d'agir en faisant un don sur donner.fondation-arc.org. Un immense merci à vous.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le temps de ce vendredi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Le soleil gagne du terrain.
Oui, petit à petit, le soleil omniprésent, voire omnipotent sur la moitié sud, se propage un peu vers le nord. Cet après-midi sera d'ailleurs ensoleillé entre la Bretagne et la Vendée et la Charente-Maritime. À l'ouest des Vosges et du Jura, les éclaircies vont aussi gagner le plateau lorrain, la Champagne et la Bourgogne. En revanche, on garde de grandes plages de nuages bas entre les frontières belges, l'Île-de-France, l'Orléanais et la Normandie, ainsi qu'entre le Lyonnais, l'Auvergne et le Limousin. Et le fort flux d'est va pousser ses grisailles jusqu'à la Touraine, au Poitou et à l'Anjou, voire jusqu'à l'Ille-et-Vilaine. Les températures maximales, elles restent stationnaires, variant entre 8 et 14 degrés en général, jusqu'à 16, 18 degrés près des Pyrénées et également autour de la Méditerranée. On attend par exemple 10 degrés à Paris, 11 degrés à Limoges et à Brest. Il fera quand même un peu plus frais sur le quart nord-est avec seulement 4 à 10 degrés.
Sébastien Léas de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Plus de 2 parents sur 3 sont contre la vaccination anti-Covid pour leurs enfants de 5 à 11 ans. C'est en tout cas ce que dit un sondage Elab publié hier. Alors que la 5e et la 6e vague de coronavirus risquent de s'additionner, alors que plus de 3000 classes en France sont fermées, 2 parents sur 3. On est loin de la faible proportion de vrais réfractaires au vaccin et ça dit beaucoup sur ce sujet délicat que représente la piqûre avec un produit tout récent pour notre progéniture. Pourtant, la vaccination est souhaitable pour tous les plus de 5 ans, dit le président de la République. Le comité d'éthique vient de dire oui aujourd'hui à l'injection pour les 5-11 ans. On attend dans les jours qui viennent l'avis de la Haute Autorité de Santé. Bonjour Christelle Gras-Le-Gouen.
Bonjour.
Vous êtes chef des urgences pédiatriques au CHU de Nantes, présidente de la Société française de pédiatrie, épidémiologiste. J'invite les auditeurs à poser leurs questions. 01 45 24 7000. Christelle Gras-Le-Gouen, la vaccination des 5 à 11 ans, le comité d'éthique se prononce pour aujourd'hui et vous ?
Alors c'est une décision qu'on attendait et qui est sans surprise dans la mesure où elle est basée sur ce qu'on appelle la gestion de l'incertitude. Et dans ce contexte où il nous manque encore beaucoup de paramètres, mais les quelques informations dont on dispose sont jugées recevables, eh bien le comité d'éthique s'est prononcé favorable à cette vaccination.
Mais vous, en tant que pédiatre.
Ce qui nous paraît très important, c'est que on puisse informer les parents, les enfants, de manière éclairée, de manière transparente, dépassionnée aussi, et que cette vaccination puisse leur être proposée s'ils le souhaitent, sans aucune obligation ni discrimination à la clé.
C'est ce que dit le comité éthique. Hein. Eux, ils refusent qu'il y ait un pass sanitaire qui soit associé à cette vaccination.
C'est en ce sens que leur avis me semble tout à fait raisonnable, de manière à pouvoir s'adapter au fur et à mesure que les informations seront disponibles, que la pandémie évolue et qu'on puisse s'adapter aussi à chaque situation, chaque famille et chaque enfant.
En tout cas, il est légitime, d'après vous, de rendre la vaccination possible pour tous les enfants et pas seulement les plus fragiles, comme c'est le cas depuis cette semaine ?
Alors c'est quelque chose qui paraît tout à fait raisonnable, que les gens qui le souhaitent puissent le faire. C'est quelque chose pour lequel, dès qu'on aura les données de pharmacovigilance et qu'on sera assuré de l'absence de réactions inquiétantes à cette vaccination, eh bien c'est quelque chose qui paraît tout à fait légitime que les parents qui le souhaitent puissent le faire.
Vous parlez des données de pharmacovigilance, on pense notamment à cette étude qui doit être faite aux États-Unis où la vaccination est déjà en cours pour les enfants, c'est ça, cette étude qui doit paraître dans 4 jours.
En effet, on avait, lors de la vaccination des adolescents, constaté que, après quelques millions de doses délivrées, certains adolescents, des garçons en particulier, faisaient une complication qui concerne le cœur et ses enveloppes, des myocardites, des péricardites. Et donc, ce qui est important, c'est de vérifier, là aussi, après quelques milliers de doses, que cette complication n'existe pas, ou en tout cas pas en nombre plus important, dans cette tranche d'âge. Et donc, c'est l'information qui nous manque pour pouvoir valider le fait que cette vaccination peut être délivrée à tous les enfants entre 5 et 11 ans dont les parents le souhaiteraient.
Vous dirigez les urgences pédiatriques à Nantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de Covid chez les enfants qui arrivent aux urgences à ce jour ?
Alors, il n'y a pas de cas de Covid où c'est tout à fait anecdotique, ou alors ce sont des découvertes qui sont fortuites, hein, puisqu'on fait des tests systématiques pour tous les enfants qu'on hospitalise. Aujourd'hui, l'immense majorité des enfants qui sont hospitalisés, qui arrivent aux urgences, sont infectés par un autre virus qui est celui de la bronchiolite. Hein. Aujourd'hui, pas de Covid grave dans nos hôpitaux. Les inquiétudes portent sur ces fameux PIMS, vous savez, qui sont ces réactions de l'organisme qui sont décalées dans le temps, qui surviennent 3 à 4 semaines après l'infection Covid et qui peuvent se manifester par beaucoup de fièvre, beaucoup de fatigue et qui ont conduit déjà 300 enfants à être hospitalisés depuis le début de la pandémie. Et donc, c'est ça qu'on va guetter dans la mesure où on va arriver là, dans la période où il pourrait y avoir des enfants qui développent des PIMS.
Est-ce qu'il y a encore de la place dans votre service d'urgence pour des enfants qui développeraient ce genre de syndrome ?
Alors les services d'urgence sont, on a l'impression, toujours extensibles à l'infini et on essaye toujours de prioriser, de faire du tri et de recevoir les enfants graves en priorité. Là où c'est plus compliqué, c'est les services de soins continus ou de soins critiques en général qui, à l'heure où je vous parle, sont saturés parce que ont été submergés d'enfants porteurs de bronchiolite de forme grave. Donc on espère rapidement que cette bronchiolite passe et qu'on puisse de nouveau débloquer des places et des créneaux en soins critiques. Mais aujourd'hui, la situation est tendue.
Christelle Gras-Le-Guen, on a un appel de Brigitte au Standard de France Inter. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Vous aviez une question.
Oui, voilà, j'ai une petite fille de 5 ans et demi qui est asthmatique, qui est soignée d'ailleurs à Nantes. Et je voulais savoir comment vaincre peut-être une certaine réticence ou une inquiétude de la maman pour pratiquer le vaccin.
Concernant le vaccin, vous dites que votre petite fille est asthmatique, donc elle pourrait éventuellement être plus fragile.
Voilà, déjà je voudrais savoir si c'est une fragilité aggravante.
Merci pour votre question Brigitte. Christelle Gras-Le-Guen.
Alors la liste des enfants qui sont susceptibles de faire des formes plus graves de Covid a été validée par la HAS et donc là, on fait partie uniquement pour les formes les plus graves, les plus sévères qui ont justifié des traitements continus ou des hospitalisations répétées. Donc il faut tenir compte de la gravité de la maladie et puis ensuite effectivement on peut aussi à partir du moment où ce vaccin sera ouvert à tous les enfants de 5-11 ans lui proposer cette vaccination à titre général, dans la mesure où, encore une fois, vous pouvez en discuter avec vos médecins de confiance, le pédiatre traitant, le médecin traitant, et ce sont eux probablement qui seront les mieux à même de peser avec vous ce qu'il faudra faire pour votre petite fille.
Christelle Gras-Le-Guen, souvent l'argument des opposants ou des gens qui sont réticents au vaccin pour leurs enfants, c'est de dire on manque de recul, notamment sur la vaccination pour les enfants. On n'en a vraiment pas du recul, parce que pourquoi est-ce que les enfants réagiraient différemment des adultes ? Il y a déjà des milliards d'adultes vaccinés.
Certainement, et en matière de vaccins et de virus, on voit bien que celui-là en particulier a un effet âge dépendant qui est très spectaculaire. On doit être à une dizaine d'enfants décédés chez les mineurs contre 120 000 chez les adultes.
Oui, 3 enfants de 5 à 11 ans depuis le début de l'épidémie notamment.
C'est ça. Donc c'est 3 enfants de trop, on est bien d'accord, mais c'est quand même sans commune mesure et on voit bien que l'âge a un rôle tout à fait déterminant dans les formes que l'on présente de ce virus, la capacité à s'infecter, la capacité à contaminer. Et il est évident que la réaction au vaccin n'est pas la même non plus. Vous voyez bien que les myocardites dont on a parlé tout à l'heure chez les garçons jeunes n'avaient pas du tout été décrits dans la population des adultes. Hein, et que
comme
c'est vraiment
secondaire.
La réaction du système immunitaire qui est différente en fonction de l'âge. Et donc c'est pour ça qu'on est amené à prendre en compte, là encore, les spécificités des très jeunes et que ces données de pharmacovigilance pour s'assurer de l'absence d'effets secondaires sont indispensables.
Christelle Gras-Le-Guen, vous parliez tout à l'heure d'un deuxième effet que pouvait avoir la Covid qui, dans un premier temps, n'était pas grave pour les enfants, du ce qu'on appelle le PIMS. Est-ce qu'ils sont susceptibles de faire peut-être des Covid longs, plus de Covid longs ?
Alors la question du Covid long chez l'enfant reste là encore avec un point d'interrogation. On parlait d'incertitude, ça en fait partie, puisque à ce jour, les médecins généralistes, les pédiatres ont été très très peu sollicités par les familles pour des symptômes en rapport avec le Covid long. Et autant chez l'adulte, ce sont des choses qui ont été l'objet de consultations et de beaucoup de diagnostics, alors que chez l'enfant, ça reste un motif de consultation extrêmement rare. On a fait le tour des différents hôpitaux dernièrement et chaque service de pédiatrie dit avoir été sollicité pour quelques cas, mais ça reste quelque chose qui n'a pas l'air très fréquent et pour lequel on dispose aujourd'hui de très peu d'informations et donc qui est pas une source d'inquiétude majeure à ce jour.
Donc, deuxième argument des personnes réticentes à la vaccination, le bénéfice-risque qui n'est pas avéré pour les enfants, vous en pensez quoi, vous ?
Alors, évidemment, dans le bénéfice, on met ces fameux cas de PIMS dont on vient de parler. C'est un peu plus de 300 enfants depuis le début de la pandémie qui ont été hospitalisés et qui ont fait ces formes sévères de Covid. Donc, si on peut éviter 300 formes sévères de Covid, eh bien, c'est le bénéfice de la vaccination. L'autre bénéfice serait un bénéfice collectif pour lequel il y a des modélisations qui évoquent possiblement un bénéfice collectif. On discute aussi peut-être sur la fermeture des classes, avec l'idée qu'il y a eu moins de classes fermées au collège et au lycée depuis la vaccination. Mais là encore, on est avec des incertitudes et ce sont des choses qu'il va falloir affiner, préciser au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie et de la vaccination.
Donc pour ça, on attend quoi ? On attend l'avis de la Haute Autorité de Santé, en fait ?
Alors, l'avis de la Haute Autorité de Santé va probablement, comme celui du comité d'éthique, se faire dans une grande incertitude. Et donc, on attend ce qui me semble important, de voir comment évolue un certain nombre de paramètres, dont la circulation du virus, dont la diffusion d'éventuels nouveaux variants qui seraient plus ou moins sensibles au vaccin, et puis aussi la réaction des Français qui est difficile à établir à ce stade, même si le sondage dont vous parlez laisse à penser que l'adhérence ne sera pas de 100%.
Jean-Yves est au Standard de France Inter. Bonjour Jean-Yves.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Madame Gralouen.
Oui, toute simple. Est-ce que les enfants vaccinés resteront contaminants, sachant que la dose ne fait pas le poison ?
Christelle Gralouen, on a des éléments là-dessus ?
Alors, ce qui est probable, c'est que la contamination reste possible, même si elle sera moins importante que chez les sujets non vaccinés. C'est ce qu'on a observé, en tout cas, chez les adolescents. Le fait de les vacciner ne leur évite pas d'attraper la Covid. Ils excrètent du virus, mais en quantité moins grande, et ils sont moins longtemps contagieux.
On a une question de Blanche aussi sur l'application France Inter. Vu, effectivement, le manque de données que vous évoquez, celle qu'on attend, en tout cas, pourquoi ne pas laisser faire l'immunité naturelle, demande Blanche.
Alors c'est une alternative qui a été par exemple choisie chez nos collègues anglais, puisque vous savez que la vaccination des enfants n'a pas été retenue pour l'instant en Angleterre, que le port de masque à l'école n'était pas non plus de mise, et on a laissé les enfants s'immuniser. La seule inquiétude, c'est avoir circulé le virus beaucoup. Est-ce qu'on s'expose pas à avoir beaucoup de PIMS, puisque on sait que c'est environ un PIMS pour 2000 cas de Covid. Donc plus on aura d'enfants à faire le Covid, plus on risque d'avoir des PIMS, en sachant que les données préliminaires dont on dispose pour la vaccination laissent à penser que la vaccination protégerait du PIMS.
On rappelle la situation de l'épidémie en Angleterre, ils parlent d'un raz-de-marée d'Omicron.
Oui. Et donc ça, c'est encore un autre point d'interrogation dans la liste des incertitudes. C'est quid de cet Omicron et de l'effet du vaccin sur ce variant. Et donc là encore, on manque de recul et d'informations pour pouvoir être précis dans ce que l'on communique.
En un tout petit mot, Christelle Gralouen, il va falloir me répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on a les moyens logistiques de vacciner les enfants ?
Alors, on les a, mais pas dans les hôpitaux en tout cas. Comme vous le disiez tout à l'heure, les hôpitaux sont submergés, sont en tension, sont en plan blanc avec un autre virus qui est le VRS pour la pédiatrie. On a du mal à recruter du personnel. Il est évident que les enfants ne doivent pas venir à l'hôpital pour se faire vacciner, mais qu'il faut qu'on équipe des centres de vaccination avec des professionnels de santé ou qu'on associe les médecins généralistes, les pédiatres à cette vaccination de manière à ce qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Et que les enfants soient en confiance et leurs parents aussi.
Merci Christelle Gralouen, chef des urgences pédiatriques au CHU de Nantes. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Les enfants, on les vaccine ou pas, on leur raconte des histoires en tout cas. Raconter des histoires aux enfants, c'est le thème du Téléphone Sonne ce soir 19h20 avec Claire Servageant. Vos témoignages et vos questions toujours 01 45 24 7000.
France Inter, le 13-14.
13h44, Avenir sur France Inter, dernier épisode de notre feuilleton sur l'enseignement immersif, en l'occurrence en langue basque. Deux élèves de terminale reviennent sur leur parcours particulier. Le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Votre chronique refait le match rugby à 13 contre Régime de Vichy.
Voilà, je vais vous raconter l'histoire de l'interdiction du rugby à 13.
Un rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro, aujourd'hui, l'artiste peintre français Hervé Di Rosa, cofondateur du MIAM, le Musée International des Arts Modestes à Sète.
Le MIAM qui cette année a fêté ses 20 ans, pendant 3 semaines encore. On peut d'ailleurs y découvrir une expo qui raconte son histoire depuis sa création. Hervé Di Rosa l'a imaginé avec l'artiste et collectionneur Bernard Beluc. Et il m'a tout d'abord raconté la raison de ce lieu.
C'est un lieu dédié à l'art contemporain au départ, hein. Mais moi, ma vie d'artiste contemporain a tout le temps été traversée par des sentiments adverses. C'est-à-dire, j'étais heureux d'exposer à New York, à Londres, à Paris, en Tokyo, mais j'avais l'impression de voir toujours les mêmes publics, collectionneurs, les universitaires, les amateurs d'art, etc. Je rêvais toujours d'un lieu pour présenter la création contemporaine la plus pointue à un plus grand nombre, à un public de néophytes. Tout ça à travers les objets et les images. Voilà. Et c'est important parce que, en France, surtout les musées parisiens, on est assez monomaniaque. Moi, j'ai l'impression, depuis 40 ans, de voir presque les mêmes expositions. Et il y a plein d'artistes qu'on ne voit jamais. Et le MIAM est là pour ça. Voilà. Le MIAM est là pour donner un autre point de vue.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo.
Gracias a la vida par Chavela Vargas.
C'est donc la chanson qu'a choisi de nous faire écouter Hervé Di Rosa. Oui, chanson écrite par la chanteuse chilienne Violeta Parra dans les années 60. Reprise depuis par de nombreux interprètes. La version qu'on entend là, c'est donc celle de la mexicaine Chavela Vargas. C'est la version préférée d'Hervé Di Rosa.
J'ai la chance, à la fin des années 90, après pas mal de bouleversements dans ma vie personnelle, de complications, de rencontrer l'amour au Mexique. C'est une Française, mais c'était pas une Mexicaine, c'est une Française mais qui habitait là-bas, qui est devenue ma femme, c'était il y a 20 ans. C'est une grande amateur de musique cubaine, mexicaine et brésilienne, et une grande spécialiste en plus. Elle connaît vraiment très bien, et c'est elle qui m'a beaucoup initié à ça. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés au son de ses chansons. Et cette chanson, elle représente ça. Surtout la version chantée par Chavela Vargas, qui est vraiment la version mexicaine. Alors, pour moi, l'amour, il baigne dans ses chansons. Voilà. Pour moi, l'amour, il est là.
Con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, irnos alumbrando la gruta del alma de aquella que amo.
À part le titre, elle nous dit quoi, cette chanson ?
Elle nous dit la vie, quoi. Elle nous dit qu'elle remercie la vie, qu'elle a eu des hauts, des bas, et qu'après elle est remontée, que merci à la vie. Et des fois, quand j'y réfléchis, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance. Et c'est pour ça, le gracias à la vie, là, c'est un peu aussi à ce moment-là de ma vie où je me suis aperçu de la chance que j'avais, parce que j'étais tout le temps en rogne, que les prix de mes œuvres n'étaient pas assez hauts, que j'avais pas eu l'exposition là, que j'avais pas réussi à faire cette peinture, que j'avais pas réussi à faire ce projet, etc. J'étais tout le temps dans le négatif. Et en fait, grâce à cette chanson, je me suis aperçu que finalement j'étais un grand chanceux vraiment et que j'avais une vie merveilleuse depuis 60 ans. Je suis très sensible aux chansons et surtout ces chansons dans lesquelles j'ai baigné à des moments particuliers. Si je peins que j'écoute cette chanson, je ne peux plus peindre parce que moi je pleure et tout. Enfin, vous voyez, je suis très émotif, je suis un peu imbécile. On dirait que c'est triste, mais ce n'est pas triste en fait, c'est de l'énergie pure quoi, de l'énergie. C'est dingue, hein. Cette chanson, je peux l'écouter quand j'ai des idées noires, je l'écoute et elle me remet en selle quoi.
Donc ça vous fait l'effet d'une piqûre de rappel.
Voilà.
Ta vie, elle est belle.
Voilà. Mais ça a l'air couillon quand on dit ça, cette chanson. Tout le monde se fout de moi, mais vous voyez, je vous l'ai dit parce que c'est vrai. Hein.
Vive l'amour sans se plaindre et soyons contents de vivre.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a la vida par Chavela Vargas ou Vargas. C'était donc Frédéric, le choix d'Hervé Di Rosa.
Le peintre Hervé Di Rosa, par ailleurs cofondateur du MIAM, le Musée international des arts modestes à Sète, dont nous fêtions cette année les 20 ans.
Merci Frédéric Pommier. L'enseignement immersif, c'est enseigner dans une autre langue que le français. Dernier épisode de notre feuilleton avec ceux qui apprennent en langue basque. Une circulaire publiée hier autorise même ses élèves en langue régionale à présenter le baccalauréat dans cette langue, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Bonne nouvelle pour Katie et Aetz, deux élèves du lycée Bernat Etchéparé de Bayonne, le seul lycée en langue régionale qui propose en France deux filières professionnelles en plus de la filière générale. Ces deux élèves sont au micro de Sonia Princet.
Vous êtes en terminale ?
Oui, c'est ça.
Au lycée Etchéparé, à Bayonne. Vos prénoms ? Katie.
Moi, Aetz.
Vous avez fait toute votre scolarité en langue basque ?
Oui, c'est ça. Depuis qu'on a 3 ans, on est rentré à l'Ikastola. Et là, voilà, jusqu'à la terminale, on apprend tout en basque. On commence en CP à apprendre le français. Et après, on est censé avoir le même niveau que les autres qui sont depuis tout petit en français aussi. On passe le même bac qu'eux en français.
Donc vous le passez en français ?
C'est ça, en français, on apprend la philo par exemple en basque et on doit passer l'examen du coup, qui est en juin en français.
Comment vous allez faire ?
Ben, on s'entraîne un peu en français, on rentre des devoirs en français, on fait des évaluations en français. Et du coup, on va faire pareil, sauf que ça sera le bac. Voilà. Mais le but, c'est quand même qu'on réussisse à avoir un jour ces examens en basque, quoi, parce qu'on se bat pour ça. Et l'année dernière, par exemple, il y en a qui l'avaient passé en basque et il y en avait un qui avait été corrigé sur, je ne sais pas, 30 qu'il avait fait en basque. Donc notre but, c'est qu'un jour, on puisse tous le passer en basque et qu'il soit corrigé en basque et qu'on puisse avoir le bac en basque en totalité, quoi.
Est-ce que vous comprenez qu'on ne vous donne pas la possibilité d'écrire en basque, puisque c'est un diplôme national ?
Moi, perso, je ne comprends pas. Enfin, je pense que la plupart des élèves ici ne comprennent pas, parce qu'on nous donne le droit depuis tout petit d'apprendre en basque, et après on nous oblige à passer l'épreuve à une langue qui n'est pas la nôtre. Donc voilà, c'est un peu injuste.
Qu'est-ce que vous allez faire après la terminale ? Qu'est-ce que vous allez faire comme étude ?
Moi perso je sais pas, j'aimerais continuer à étudier en basque, donc la seule option, ou presque, c'est d'aller étudier en Pays Basque Sud.
Donc en Espagne, hein, c'est ça ? Vous vous dites ça, Pays Basque Sud, mais...
Oui, c'est dans l'état espagnol, ouais. Mais pour nous c'est quand même le Pays Basque.
Et donc c'est la seule possibilité que tu as pour pouvoir continuer à étudier en basque ?
Ben, sinon il y a une école ici à Iparralde, donc au Pays Basque Nord, mais c'est vraiment une fac de basque, quoi. Donc c'est la seule option pour apprendre en basque. Si on veut apprendre du droit ou de que sais-je, autre chose, on doit obligatoirement apprendre en français. Moi aussi j'aimerais continuer en basque, mais ce qui est compliqué c'est que maintenant, par exemple en France, dans le système français, on doit s'inscrire sur Parcoursup. Et si on veut aller dans l'état espagnol ou dans le Pays Basque Sud, c'est pas du tout le même système et ils passent pas le même bac. Alors pour intégrer les écoles là-bas, c'est différent. Et par exemple, il y a des élèves qui n'ont pas été pris parce qu'il y avait des complications avec les notes. Je sais qu'ils se battent pour ça ici aussi, les profs. Ils se battent pour qu'on puisse aller facilement continuer nos études en basque parce qu'on n'a pas l'occasion de faire ça de ce côté du Pays Basque.
Vous pensez que c'est vraiment un plus pour vous d'avoir eu ce parcours en basque ?
Moi, je pense que oui, parce que tous nos parents, nos grands-parents qui étaient basques, ils n'ont pas eu cette chance d'apprendre en basque. Et même au contraire, ils ont été punis pour avoir parlé le basque dans les écoles. Ils avaient ce qu'on appelle un anti, un bâton qu'on donnait à la fin des cours à celui qui parlait en basque. Et il devait rester à la fin des cours et écrire « Je ne parlerai plus en basque, je suis français ou que sais-je ».
C'est ce que tes grands-parents t'ont raconté ?
Oui, ma grand-mère qui m'a raconté je ne sais pas combien d'histoires. Il y a des livres qui sont sortis sur ça, des films...
Je vais vous dire Milechker, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est ça, c'est parfait. Milechker Souli, merci à vous. Adieu, c'est au revoir.
Adieu alors. Merci beaucoup en tout cas.
Une semaine en immersion dans ces établissements qui enseignent en langue basque. Feuilleton de Sonia Princey réalisé par Lucie Lemarchand. Vous pouvez le réécouter en intégralité sur notre site franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
À 13h54 sur Inter, le vif de l'histoire, chronique d'histoire et d'actualité. Jean Lebrun, les adeptes du rugby à 13 regrettent que les médias préfèrent le jeu à 15. En fait, c'est le maréchal Pétain qui a brisé l'histoire du rugby à 13. Il a dissous leur ligue par un décret du 19 décembre 1941, il y a près de 80 ans.
Alors on peut reprocher aux médias de ne pas parler du rugby à 13, personne ne me reprochera de ne pas parler du maréchal Pétain. Et c'est par ce biais que je vais tenter de réparer l'injustice qui frappe donc le rugby à 13. Alors on sait qu'il est né en Angleterre, lui aussi, comme le rugby à 15. Son succès fulgurant, dès qu'il se constitue officiellement en France en 1934, tient entre autres à une raison, à la différence du rugby à 15, il admet une professionnalisation. Ses meilleurs joueurs gardent un métier civil, mais touchent de substantielles primes à chaque match. Or, à cette époque, les sports se sont beaucoup répandus en France, la politique du Front populaire n'y a pas été pour rien, et ils sont devenus le plus commun des spectacles, la radio n'y a pas été pour rien. Et le spectacle, le rugby à 13, en offre plus que le rugby à 15, la course plutôt que la mêlée, le plaquage à peu près autorisé, la vivacité en somme. Et son ascension est très brillante. De grands joueurs, de grands clubs, Cirali, Brive, Carcassonne, Narbonne. Au total, sa ligue compte 220 clubs en 39. La fédération du rugby à 15 en a encore deux fois plus, mais ses recettes peinent à égaler celles du rugby à 13, que maintenant les journaux préfèrent largement.
La trésification, oui, on dit trésification, est cassée net dès le début du régime de Pétain.
Oui, le Front populaire avait eu une politique sportive. L'État français va en avoir une, que résume ici Frédéric Pommier.
Gloire à vous, maréchal. L'on verra vibrer, ainsi que les poèmes, sous les doigts du soleil, les lignes de nos corps.
Le premier commissaire au sport du régime, le champion de tennis Jean Borotra, déteste le professionnalisme autant qu'il adore Pétain. Son adjoint et futur successeur, le colonel Pascot, est un ancien rugbyman. Les dirigeants du rugby à 15 et les bureaux des sports de Vichy vont s'entendre comme larron en foire, sur fond d'exaltation du sport de terroir, le lieu naturel de la Révolution nationale.
Et vous dites, le rugby va être en conséquence dans le viseur de Vichy, beaucoup plus que d'autres sports, hein, tout aussi attirés par le professionnalisme.
Oui, le foot, la boxe, le cyclisme, la pelote basque auront 3 ans pour retrouver l'amateurisme idéalisé. Au rugby à 13, il est enjoint de se corriger de suite. Un rapport est commandé à l'automne 40 à un ponte du rugby à 15 qui indique la seule issue, l'absorption des dissidents. Et ces choses hâtivement faites, le décret du 19 décembre 41 met un point final à la destruction de la Ligue du rugby à 13, dont les biens sont confisqués. Ils passeront au Comité national des sports et se retrouveront souvent dans le patrimoine du rugby à 15. Alors dans cette affaire, plus encore que les intentions politiques, a joué le rapport des réseaux du sport. Les circonstances ont permis au chef du rugby à 15 de se débarrasser d'un rival très dangereux, le jeu à 13.
Vous dites maintenant le jeu à 13.
Bah oui, parce qu'après la libération, Marion, les 13istes reconstituèrent leur organisation, mais sans pouvoir utiliser le mot rugby. Ils n'étaient plus que des pratiquants d'un jeu à 13, et il a fallu qu'un de leurs présidents, l'universitaire Jacques Sopelsa, entame une action en justice pour retrouver l'appellation qui leur avait échappé au congrès de la fédération 15iste. Son chef, le délicat Albert Ferras, tonne alors. « Ah, vous voulez la guerre, messieurs, vous l'aurez, la guerre totale !» Le congrès se tient à Vichy. Il faudra, face aux multiples recours des quinzistes, des années de procédure, avant que la Cour de cassation, en 93, n'autorise l'expression « rugby à 13 ».
Jean Lebrun et sa carrure de rugbyman, merci. Les auditeurs vous retrouvent demain avec Intelligence Service au programme.
Eh bien, au programme, Jacques Ellul, théologien protestant.
Merci et à demain, Jean, 18h20.